I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Première fois, le podcast de 20 minutes consacré aux premières fois dans le sport. Aujourd'hui, on rétro-pédale jusqu'en 1968, année où la course cycliste Paris-Roubaix a connu une petite révolution avec la traversée d'un nouveau secteur pavé redoutable. C'est un récit de Stéphanie Crampon.
Mai 68, c'est la révolution à Paris. Les pavés vont devenir le symbole des manifestations. Un mois plus tôt, le 7 avril, ce sont d'autres pavés qui accèdent à la célébrité. Pour la première fois, la classique cycliste Paris-Roubaix emprunte une route pavée baptisée Tranchée ou Trouée d'Arenberg. Les spécialistes du vélo sont unanimes. Il faut jouer les funambules pour traverser sans encombre ce passage de 2,3 km situé entre Lille et Valenciennes dans le Nord. Cette route, c'est le coureur nordiste Jean Stablinski qui l'a dénichée. Il connaît bien le secteur. Lorsqu'il était embauché aux mines, il a travaillé quelques semaines dans les veines de charbon qui passaient en dessous. Il a lui-même emprunté maintes fois ce chemin quand il travaillait dans les bureaux des houillères. Les organisateurs ont donc inscrit ce secteur pavé inédit sur le tracé de 1968. En durcissant la course, ils espèrent éviter ainsi un sprint massif à l'arrivée, comme l'année précédente. Pour son dernier Paris-Roubaix, Jean Stablinski, le rouleur, aurait sûrement apprécié faire la course en tête sur cette portion de route. Ironie du sort, c'est un grimpeur, Roger Pinjon, qui arrive détaché à Arenberg. Grimaçant, il enfile les pavés avec une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Un peu plus loin, une crevaison aura raison du fuyard et la victoire finale reviendra au Belge Eddy Merckx, comme souvent à cette époque. Si la tranchée d'Arenberg n'a pas fait la différence, elle a marqué les organismes et les esprits. 50 ans plus tard, elle reste un passage obligé de Paris-Roubaix, une course où la légende et la dramaturgie se sont forgées sur ces pavés d'un autre temps. Dans les années 80, le champion français Bernard Hinault lui donnera une image encore plus emblématique, refusant souvent d'y prendre part. « C'est une course de merde », assure-t-il sans embâge. Pour lui, elle est trop aléatoire à cause des crevaisons en série. Comme pour faire taire les critiques, Hinault accrochera Paris-Roubaix à son palmarès en 1981. Mais ça, c'est une autre histoire.
Donc Pascal Sergent, bonjour. Vous êtes historien du cyclisme et président du comité régional des Hauts-de-France. Vous avez écrit une dizaine de livres sur Paris-Roubaix. Alors quand on parle de Paris-Roubaix, forcément, on évoque les pavés. Comment elle est née, cette légende des pavés ?
C'est une longue histoire puisque qui a été d'ailleurs façonnée dans le temps, puisque les premiers Paris-Roubaix utilisaient les routes nationales, donc la course partait d'ailleurs de la Porte-Maillot à Paris pour remonter vers Roubaix. Et donc là, c'était les grandes routes nationales. On passait par Amiens, Arras, Lens, et puis la région minière juste derrière. Et donc à l'époque, c'était les pavés, mais c'était les pavés sur 250 ou 260 km. Mais c'était pas les mêmes genres de pavés. Les routes à l'époque étaient pavées, mais ils étaient pavés avec des pavés réguliers. Donc c'était plutôt la course au trottoir, puisque les coureurs passaient d'un trottoir à l'autre pour éviter ces fameux pavés. Là, il y avait des risques de crevaison, donc c'était toute une autre époque. Et à la charnière des années 60, Jacques Godet, qui était le patron du journal L'Équipe, avait voulu vraiment trouver d'autres pavés, puisqu'il était de plus en plus difficile d'emprunter les routes nationales à cause notamment du trafic. Et donc la course est retranchée sur des petites sentes à travers champs, et là on a retrouvé les vrais pavés.
Cette trouée d'Arenberg, comment l'organisation en est arrivée à l'inscrire sur le parcours ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les détails ? Comment ça s'est fait ?
Alors, C'est très simple, puisqu'en 1967, tout part en fait de 1967, on a un sprint royal à l'arrivée de Paris-Roubaix, gagné par Yann Janssen, tout le monde est là, Merckx, Poulidor, Van Looy, Rudy Altig, donc c'était vraiment un sprint magistral, et Jacques Godet a été très déçu. Yann Janssen gagne. Yann Janssen, c'était un champion. Il avait été champion du monde. Il allait gagner le Tour de France l'année suivante. Mais Jacques Godet était très déçu parce qu'il estimait qu'une course comme Paris-Roubaix ne pouvait pas arriver au sprint. Et donc, il demande à Albert Bouvet, qui travaillait au service sportif du journal L'Équipe, donc qui organisait Paris-Roubaix, il demande à Albert Bouvet de trouver des pavés qui permettraient de faire la différence afin d'éviter d'avoir à l'arrivée un groupe d'une dizaine de coureurs au sprint sur la piste du Vélodrome. Et Albert Bouvet se rapproche de Jean Stablinski, d'Edouard Delberg, qui était un ancien cycliste nordiste également, pour retrouver des pavés dans le Solémois, donc il était de Solèmes, Edouard Delberg, et
naturellement qui se trouve où,
qui se retrouve à une vingtaine de kilomètres au sud de Valenciennes.
D'accord.
Et il se rapproche naturellement de Jean Stablinski pour lui trouver des pavés dans le Valenciennois. Et Jean se rappeler qu'il y avait un long ruban de pavé dans une forêt, et c'est bien sûr la trouée de Valère Sarrambert, qui s'appelle les Boules d'Airain d'ailleurs, hein, puisque c'est l'appellation officielle, c'est la trouée des Boules d'Airain. Donc il emmène Albert Bouvet sur le site. Albert Bouvet lui dit: écoute Jean, c'est pas possible, on peut pas rouler sur des pavés pareils, il y a de la mousse sur le entre les pavés, ça peut être dangereux. Et Jean malgré tout parvient à convaincre Albert Bouvet de faire passer la course là. Et c'est en 1968, c'est une grande année, puisque c'est bien sûr l'année des pavés, mais au-delà des pavés, c'est l'année de la première victoire d'Eddy Merckx. Et Eddy Merckx a remercié quand même Jean Stablinski à l'arrivée en disant: malgré tout, tu nous as fait passer là et ça m'a facilité la victoire, parce que Merckx était vraiment au-dessus du lot.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire que c'est un passage extrêmement difficile pour les coureurs ?
Dans Paris-Roubaix, il y a deux ou trois passages très difficiles, notamment cette trouée d'Arenberg, mais aussi un secteur Orchy, et puis ce qu'on appelle le dernier secteur, le carrefour de l'arbre, à 16 km de l'arrivée. Alors, c'est pas, il faut être très clair là-dessus, ce n'est pas à la trouée d'Arenberg que la course se gagne. Par contre, elle peut se perdre. Parce qu'en fait, c'est près de 2500 mètres de pavé. Quelques écarts se font. La course commence vraiment à se dessiner. Et si un coureur se retrouve rejeté à l'arrière pour une crevaison qu'il aurait eu un peu avant, ou par une chute, parce que ça peut arriver qu'il y a des glissades, on peut très vite perdre une minute, deux minutes, trois minutes. Donc les efforts qui se font à cet endroit-là, pour récupérer une place parmi les premiers, se payent forcément à un moment ou un autre dans la course, ce qui fait que on peut tout perdre à Valère-Saint-Lambert, on peut pas forcément gagner, mais on peut tout perdre. Et il y a aussi le fait que c'est un endroit qui est relativement difficile, puisque pendant les 2 ou 3 kilomètres avant cette trouée d'Arenberg, la route est en légère déclivité, donc les coureurs arrivent très très vite sur ce secteur pavé. Il y a la fameuse barrière, il y a une barrière qui est ouverte une fois par an pour laisser justement passer les coureurs à Paris-Roubaix, les coureurs de Paris-Roubaix, et c'est vraiment très dangereux, puisqu'il y a eu quelques chutes, notamment une chute de Yoann Museeuw qui a failli tourner mal d'ailleurs, hein, puisqu'on a failli l'amputer d'une jambe, c'était en 2000 ou 2001 je pense. Donc comme les coureurs arrivent très vite, qui peut avoir des chutes, il faut faire très attention, et c'est en ça qu'on peut tout perdre à cet endroit-là.
Bah écoutez, merci Pascal Sergent pour ces explications. Première fois consacrée à la course cycliste Paris-Roubaix, c'est fini. Ce rendez-vous sport est à écouter dans le podcast 20 minutes, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous gratuitement et à très bientôt pour un nouvel épisode.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.